ça fait 10 ans. Et peut-être même un petit peu plus, mais vous n'en avez même pas entendu parler nulle part, ni à la radio, ni dans un podcast. 10 ans que Adam Curry a demandé à Dave Winer s'il était possible de mettre du contenu média dans un fil RSS. 10 ans que Dave Winer a perfectionné le RSS qui a été lui-même abandonné par Netscape, qui voyait absolument aucun avenir à cette technologie-là. 10 ans que Winer a imbriqué la chanson « Touch of Grey » des Grateful Death dans un fil RSS. Et puis, qui en parle? Ben, personne. Personne sauf moi. En fait, il me semble que j'ai même pas entendu un seul podcaster en parler. Que ça fait 10 ans que le podcasting existe, techniquement. Pourquoi? Ben, c'est parce que le vrai anniversaire du podcasting va peut-être se produire en 2004, parce que c'est là que ça atteint le grand public, mais aussi probablement parce que tout le monde est un peu trop occupé à parler de choses plus éphémères, plus rapides. On consomme de l'information de plus en plus rapidement. Et en consommant cette information-là rapidement, ben on a l'impression que le dernier truc à la mode est le plus important. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Et puis, vous écoutez Le Québec en balado-diffusion.
Let's go.
Hey, c'est drôle, hein? Je vous entends presque dans mes oreilles dire « C'est quoi cette chanson-là? T'as donc ben plus de goût, Sylvain? » Ben, c'est le premier podcast. C'est la chanson en question des Grateful Dead, qui s'appelle « Touch of Grey ». Cette chanson-là a été mise pour la première fois dans Scripting News, le blog de Dave Winer, qui, évidemment, c'est lui qui a entre autres développé le RSS un petit peu plus loin pour faire le RSS 2. Et puis, ben, il avait mis ça en janvier 2001, tout simplement dans son blog. Suite à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez peut-être me demander, ben, Sylvain, pourquoi, si le podcasting est né en 2001, il n'a pas connu un très grand succès à ses débuts. Mais il y a toutes sortes de raisons. Il y avait une question de bande passante. Vous pouvez vous imaginer télécharger des émissions de 15, 20, 30 mégs et plus à cette époque-là. Sur un modem 56K, la plupart des gens n'avaient pas la haute vitesse. Ben, c'était assez long. Il n'y avait pas non plus de service d'hébergement destiné au podcasting. Il fallait faire affaire avec un hébergeur professionnel, ce qui coûtait cher aussi à l'époque. C'était très, très cher. Il n'y avait pas non plus vraiment... Bien, il y avait un agrégateur, Radio Userland, qui était, je pense, qui appartenait justement à Dave Winer. À cette époque-là, mais il était payant, il fallait payer pour l'avoir. Donc, tout n'était pas là pour donner naissance au podcasting nécessairement. Et ben, tout ça est apparu au cours de l'année 2004. Libsyn, service d'hébergement de fichiers audio, qui ne faisait pas payer plus cher en fonction de la bande passante ou le nombre de fois qui était téléchargé. Il y avait aussi un agrégateur Juice. Différentes choses comme ça qui se sont mises en place tout en 2004 et là, boum, ça a explosé. Donc peut-être qu'on fêtera les 10 ans du podcasting dans 3 ans. Qui sait? On verra. Je suis content encore une fois d'être derrière le micro. 2 émissions en 2 mois. Waouh! Je vais essayer d'y prendre habitude et peut-être même retrouver mon rythme d'antan. À l'époque, je publiais une émission à peu près aux 2 ou 3 semaines en moyenne. C'était ma moyenne au bâton. Donc, on verra. Je ne vous fais absolument pas de promesses, mais on verra bien qu'est-ce qui se passera avec ça. Ouais, quel petit son de transition encore une fois. Et vous allez être contents. J'enregistre le soir. Et si j'enregistre le soir, ça veut dire oui. Un carburant de la semaine. Je le verserai pas parce que j'ai pas pensé me prendre un verre. Puis là, ben, j'irai pas courir dans l'autre pièce, aller me chercher un verre. En fait, j'ai acheté quelque chose qui s'appelle de la Boris Bio. Boris, ben, c'est une marque de bière. En fait, c'est une compagnie qui vient d'Europe. C'est brassé en France. Ils ont développé toute une gamme de produits aussi ici au Québec. Et la bière est importée ici, donc il y a quand même un certain coût à ça. Ce qui fait en sorte que c'est pas nécessairement la portion bière de Boris qui est la plus lucrative. Boris produit la gamme de cooler la plus populaire au Québec aussi. Donc, c'est ce qui fait que la compagnie existe encore aujourd'hui, je le sais de source sûre. Et puis, ils produisent toutes sortes de bières. Et si la tendance se maintient, j'ai entendu dire qu'ils vont installer une usine ici. Donc, on peut espérer plus de produits de leur part. Ils font toutes sortes de bières, bon, de la bière régulière, en petites bouteilles, de la bière en canette aussi. Ils font de la bière pour, moi j'appelle ça de la bière d'ivrogne, là, de la bière à 10-12% d'alcool en canette, là, qui a un gros rapport soulage versus prix. Mais celle-là que je bois, que j'achète à l'occasion, s'appelle de la Boris Bio, c'est celle que j'ai en ce moment. C'est rare, je la bois à même la canette. C'est une bière blonde. Je ne connais pas tous les détails. Elle est quand même assez douce au goût, mais il y a quand même une bonne présence de houblon, une saveur de houblon frais que j'aime quand même bien. Et dans ce type de bière-là, En canette comme ça, qui a pas nécessairement, c'est, on dit pas si c'est une lager ou quoi que ce soit, on dit juste que c'est une bière bio, mais je dois dire qu'elle est quand même assez savoureuse et pour enregistrer un podcast, elle fait extrêmement bien la job. Oh, je vais vous parler un peu de podcasting, j'irai pas dans le détail. Il y a quand même plusieurs podcasts qui m'ont été soumis depuis un an, et que malheureusement, j'ai pas ajouté à la liste et je vous ai pas parlé tout simplement parce que j'ai pas fait beaucoup d'émissions. Donc, je vais vous en parler. Certains qui m'ont été soumis, certains que je connais, que j'ai découvert. Donc, il y a un podcast quand même assez intéressant qui s'appelle L'analyse des geeks, qui est fait assez régulièrement à Montréal. Et puis, ben, souvent, ben, ils prennent les questions du public, puis ils y répondent. Donc, c'est quand même assez sympathique. C'est très décontracté. Malheureusement, il y a beaucoup de « inside jokes ». On a l'impression de débarquer dans un salon parfois, puis qu'il y a un langage que ces gars-là comprennent, mais que nous, on comprend pas du tout. Ceci dit, ben, ça peut être utile pour les gens qui veulent en apprendre plus sur certaines technologies. Il y a les mystérieux étonnants qui produisent une émission ben, à Choc FM, qui est une radio universitaire, sur la culture populaire, donc. Ça traite de toutes sortes de sujets. Puis ça aussi, c'est vraiment sympathique. J'aime ça l'écouter à l'occasion. Et en plus, ben, j'ai eu la chance de... Ben, je dirais pas la chance incroyable, mais de rencontrer un des mystérieux étonnants en question. Quand on a fait... je suis allé refaire un podcast pour Mac Québec, juste une fois, quand il y a eu un lancement de produits le printemps passé. Je me rappelle plus lequel, d'ailleurs. Mais bon... donc c'est ça. Et puis ben les mystérieux étonnants, c'est très sympathique. Les gars sont sympathiques. Allez écouter ça. Je voulais aussi souligner que Bordel de mer de Jean-François Blais connaît un rythme assez effréné. Au début, Jean-François avait à peu près le même rythme que moi. Puis c'est drôle, on a à peu près commencé à podcaster le même mois. Puis, notre nombre d'émissions grandissait au même rythme. Puis là, ben, il est en feu. Depuis l'année passée, depuis le temps des fêtes l'année passée, il produit systématiquement une émission par semaine tout le temps. Donc, si ça vous intéresse, la musique de chant de marin, qui est un genre assez particulier, son émission est quand même très populaire, très écoutée évidemment en Europe. Et si ça vous intéresse, ben, vous pouvez l'écouter ça. Il produit aussi une couple d'autres podcasts, dont un sur la bière. Et il produisait aussi, je pense que ça s'appelle 104 Histoires de Nouvelle-France. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais toutes sortes d'histoires reliées à justement l'histoire du Québec. Donc, vous pouvez aller écouter ça. Même les archives, c'est vraiment super intéressant. Mon fils, mon tout jeune garçon, adorait aussi entendre ces histoires-là. Ensuite de ça, il y a un podcast qui s'appelle le podcast de LAN2K.net, produit à Mont-Joli depuis mars 2011, qui est censé être bimensuel. Je vais être honnête avec vous, je suis pas allé voir. Je l'ai juste pris dans mes courriels et puis ben, je l'ai même pas écouté. On vise les 12 à 40 ans. Ben, le public, j'imagine, les gars qui jouent aux jeux vidéo parce qu'on parle de jeux vidéo et de nouvelles technologies et de gadgets. Donc, je vous mets le lien. Peut-être qu'il est même plus produit ou je sais pas. Allez voir ça. Il y a le podcast qui s'appelle Gastronomica, produit par Bobby Grégoire et l'ami Cédric Fontaine. C'est produit à Montréal. Cédric Fontaine, il y a une boutique en ligne justement sur les produits du terroir québécois. Donc, vous pouvez faire venir ces produits-là par la poste, surtout si vous êtes en Europe, des produits du terroir québécois que vous pouvez faire venir. C'est toutes des choses justement qui sont soit en boîte, soit en pot, soit sous vide, etc. Donc, ça traverse très bien l'Atlantique. Puis même si vous êtes au Québec, hein, vous pouvez vous en commander, recevoir ça chez vous. Parfois, c'est difficile d'avoir toutes sortes de produits différents du terroir en un seul endroit. Puis lui, ben, il vous l'offre. Donc, l'émission qui s'appelle Gastronomica, c'est une forme de discussion, donc avec Cédric Fontaine et Bobby Grégoire. Donc, Bobby, lui, est consultant en gastronomie et évidemment, Cédric a sa boutique en ligne. C'est censé être diffusé mensuellement et il propose des réflexions à chaud sur divers éléments d'actualité agroalimentaire et sur les cultures culinaires. Là aussi, je ne vous promets pas que ça a été produit de façon régulière, mais allez faire un tour, peut-être que c'est là. Il y a une autre émission qui s'appelle La Passerelle, produite par Daniel Blanchette Pelletier et Marie-Ève Rochon. C'est produit à Montréal depuis mai 2010 de façon hebdomadaire et on parle de mode et c'est destiné aux 15 à 35 ans. Donc, c'est une émission d'affaires publiques de 30 minutes consacrée principalement à l'univers de la mode. L'équipe qui compose cette émission-là se donne comme principal objectif d'aborder cette thématique sous un angle culturel et souhaite faire découvrir l'art qu'est la mode au même titre que la littérature et le cinéma. Donc, c'est aussi diffusé sur Choc FM. Allez faire un tour là-dessus. Donc, ça, c'est probablement toujours produit. Le dernier podcast s'appelle le KPR. C'est produit par Kraken à Québec depuis août 2007. Ça me surprend. C'est un podcast qui date depuis longtemps. Et puis, mais que j'ai jamais entendu parler. Donc, aller faire un tour, c'est produit de façon sporadique. Ça, j'adore ça. Quelqu'un qui est franc, qui le sait, qui ne produit pas à toutes les semaines. Puis, ça fait partie de la nature d'un podcast, parfois, de disparaître et de revenir. Hein? J'en suis la preuve audio. Donc, le sujet abordé, c'est techno-politique, destiné aux 18-34 ans. Et la description, on me dit, c'est Kraken's Paradise Radio. C'est aussi simple que ça. Si ça vous intéresse ou si ça vous titille le cerveau de savoir c'est quoi, allez faire un tour là-dessus. Peut-être que vous allez trouver ça intéressant. Oh, on me demande souvent quels sont mes podcasts préférés. Puis en ce moment, je dirais que je suis en transition. J'ai un peu rebooté, c'est-à-dire fait le ménage, effacé plein de choses et juste réajouté ce qui m'intéresse vraiment et ce que j'aime écouter. Donc, les podcasts qui sont produits de façon régulière, parce qu'il y en a qui sont très sporadiques, là, mais ceux qui sont produits de façon régulière, j'aime beaucoup écouter certains podcasts institutionnels ou certains podcasts qui sont produits vraiment avec un timing d'horloger. Donc, The Moth, c'est des histoires, toutes sortes d'histoires. Et la façon que c'est produit, c'est qu'ils font des soirées un peu partout aux États-Unis où est-ce qu'il y a des gens qui racontent des histoires. C'est pas des conteurs au sens traditionnel du terme comme on a ici au Québec. Non, c'est vraiment des gens qui montent sur le stage pour raconter une histoire qui leur est arrivée ou qui est arrivée à un membre de leur famille ou peu importe. Et ils la rendent de façon très dynamique, très vivante. Et c'est fait par des gens qui sont pas nécessairement tous des professionnels sur un stage comme ça, à chaud, sans notes, devant le micro, de façon très, très simple. Et il y a plein d'histoires incroyables. Donc ça, je vous le conseille, c'est vraiment mon préféré. À chaque fois qu'il y en a un qui apparaît, je le télécharge, je l'écoute. Il y a aussi This American Life, qui est un podcast qui est produit par la radio publique américaine. Bon, la radio publique américaine, c'est pas comme Radio-Canada. Il y a une structure très différente, mais quand même, il y a des très bonnes émissions qui sont produites. Donc ça raconte toutes sortes d'histoires qui se passent dans la vie américaine. Et il y a toutes sortes de liens, des fois, entre ces histoires-là. Il y a souvent une thématique par émission. Ça dure à peu près une heure et c'est très, très bon. Honnêtement, c'est un bijou de réalisation et il y a plein de gens à travers le monde qui s'inspirent de cette façon-là de raconter. Il y a aussi Radio Lab, qui est un podcast orienté beaucoup sur la technologie, sur la science aussi, et l'effet de ces sujets-là sur l'homme. Ça pourrait paraître assez rigide, assez plate, mais au contraire, ça aussi, c'est un bijou de réalisation. C'est extrêmement bien raconté. Puis même certaines émissions surpassent This American Life tellement c'est bon. Il y a aussi les TED Talks que j'aime. Donc, les conférences TED en version audio. Moi, je fais souvent de la route, donc c'est une bonne façon de passer le temps et de se remplir le cerveau de choses super intéressantes. Donc, on parle de toutes sortes de sujets, évidemment, de la technologie, du design, l'architecture, etc., etc. Donc, tous les grands penseurs vont là. Pour les podcasts indépendants, il y a M. Pierre Journel qui produit moins souvent son PCC, mais que j'aime toujours écouter à l'occasion. Il produit d'autres podcasts, il produit aussi la chaîne Guitare, c'est un passionné de guitare. Et puis, il a commencé à produire la chaîne Éléphant, qui parle de l'usage de Evernote en français et en anglais. Il est crinqué comme ça, Pierre, et j'adore ça. Donc, si ça vous intéresse, ces trois podcasts-là pourraient être intéressants pour vous. J'aimais aussi écouter « Mes paroles s'envolent » de l'ami Laurent Lassalle. Dans le temps qu'il faisait un show de musique, où est-ce qu'il nous faisait jouer de la musique, les derniers épisodes, c'était surtout des entrevues, ce qui était aussi très intéressant. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle j'avais commencé à écouter le podcast de Laurent à l'époque. Donc, même si c'était intéressant, je préférais quand même quand il nous faisait jouer de la musique, puis donner ses petits commentaires ici et là. Et puis, il est tellement occupé en ce moment que, c'est ça, maintenant, il en produit moins, un peu comme moi l'année passée. Donc, on va voir si un jour son podcast va reprendre du service. Au niveau anglais aussi, anglophone, il y a aussi « The Love-Hate Podcast » de Anthony Marco. Il en produit quand même quelques-uns, mais celui-là, je l'aime bien. C'est un podcast très personnel. C'est un Ontarien que j'ai rencontré quelques fois à Podcasters Across Borders. Puis, c'est un gars qui a un talent de raconteur quand même assez phénoménal. J'écoute toujours à l'occasion « Vix and Janes » de Scarborough Dude. Je vous ai déjà parlé de lui dans des émissions passées. C'est pas un podcast qui est à la portée de tous, dans le sens que quand vous écoutez ça la première fois, vous vous demandez « Wow, c'est quoi cette bébite-là? C'est quoi ce gars-là? » Mais à force de l'écouter, on rentre dans son univers, puis c'est vraiment intéressant, c'est très personnel aussi. Donc, c'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce que j'écoute aussi? J'écoute aussi What the Fuck de Marc Maron. Marc Maron, qui est un comique américain dont la carrière était peut-être un peu en déclin. C'est un gars qui est allé souvent dans des talk shows, qui est allé très, très, très souvent à quelle émission? Non? Ah, une émission de fin de soirée. Il en a fait plusieurs au fil des années. Maintenant, il apparaissait plus là-dessus. Il ne savait plus trop quoi faire avec sa carrière, j'ai l'impression. Il faisait quand même des shows un peu partout. Mais bon, c'était quand même pas la grande gloire. Il s'est mis à faire un podcast l'année passée, ça a connu énormément de succès. Comme il connaît tout le monde dans ce milieu-là, il interviewe des stars, évidemment. Il a déjà interviewé Robin Williams, entre autres. Des comédiens très connus. Dernièrement aussi, comment il s'appelle, le comédien qui joue le personnage principal dans Mad Men? Ah, ça va me revenir, mais en tout cas, il a interviewé lui aussi. Bref, il interviewe des gens vraiment reliés au monde de la comédie, mais aussi, des fois, il déborde un peu, puis à notre grand plaisir, quand il y a du monde comme ça, super intéressant, évidemment. Puis en plus de ça, l'été passé, il est venu au Festival Juste pour Rire, puis lui, la façon qu'il fait ses spectacles, c'est à demi-préparé, il a une idée de base, puis il est vraiment dans le moment présent, où est-ce que il sent le pouls de la foule, puis il essaie de les faire réagir, puis il les pousse un petit peu plus loin. Puis souvent, il se présente devant le micro, puis il invite des gens à venir parler avec lui. Donc, il fait une discussion sur scène comme ça, puis à tour de rôle, les gens viennent. Puis, dépendamment d'où est-ce qu'il se trouve, il invite des stars locales. Donc, il invite Mike Ward à venir jaser avec lui. Puis c'était vraiment, vraiment drôle. Si vous le retrouvez dans son fil de podcast, là, ce qu'il a fait à Juste pour rire l'été passé, c'était très, très bon. Je vous le conseille. J'écoute aussi des podcasts de techno. This Week in Tech à l'occasion. Puis toute la famille This Week in quelque chose. Donc, il y en a plusieurs comme ça. J'écoute quelques podcasts de marketing, mais je suis pas un fervent. J'écoute pas tous les épisodes de Marketing Over Coffee, mais j'écoute, je regarde les sujets, puis je prends ceux qui m'intéressent le plus. Même chose pour Six Pixels of Separation de l'ami Mitch Joel. C'est aussi intéressant, mais à l'occasion, ça l'est moins, ou ça m'intéresse moins. Donc, c'est ça. J'écoute aussi d'autres podcasts institutionnels. Bon, pas nécessairement des trucs spectaculaires, mais ça fait un peu le tour de qu'est-ce qu'il y a dans mon iPod en ce moment comme podcast. Et aussi, mais il y en a toujours à l'occasion des podcasts qui, bon, semblent un peu disparus puis qui reviennent. Je vous ai parlé l'autre fois du Zcast. Il y a aussi The Catfish Show de Cathy Bobkovich et Bob Goyetch. Qui est revenu comme ça, paf, de nulle part. On est content quand on voit ça apparaître dans notre fil RSS ou dans notre iPod. Donc, continuez les gars, c'est super intéressant. Je vous fais jouer une chanson pour prendre une pause parce que là, j'ai besoin de reprendre une gorgée de bière. Je suis essoufflé. Et puis, ben, c'est une chanson de Nick Drake. Je vous ai déjà fait jouer des chansons de lui. Je l'adore. Puis c'est une chanson, je repensais à mon voyage de cet été en France. Bon, je vous ai dit, je suis allé à Paris, je suis allé aussi, encore une fois, dans le sud de la France. Et pendant une semaine, on a habité en milieu urbain dans le sud de la France, donc dans la petite ville d'Aix-en-Provence. On était à deux coins de rue des cours Mirabeau, vraiment là où l'action se passe, mais c'est vraiment de l'action smooth. Puis quand j'allais faire les courses le matin pour déjeuner, je me promenais, je montais les petites rues, je me rendais sur les places du marché, acheter du pain frais, des fromages, des fruits, tout ça. Puis je mettais du Nick Drake dans mes oreilles. Puis à partir de maintenant, je ne peux pas écouter ces chansons-là sans penser à la ville d'Aix-en-Provence. Donc c'est pour ça que je vous le fais jouer.
Could have been a sailor, could have been a cook. A real life lover, could have been a book. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. I could be here and now. I would be, I should be, but how? I could have been one of these things first. I could have been. Could have been your dog. I could have stayed beside you, could have stayed for more. I could have been your statue, could have been your friend. A whole long lifetime could have been. Be oh so true. I would be, I should be through and through. I could have been one of these things first. I could have been. Thank you.
been a whistle, could have been a flute. A real life giver could have been a boot. I could have been a signpost, could have been a clock. As simple as a kettle, steady as a rock. I could be even here. I would be, I should be, somewhere. I could have been.
Wow! J'étais presque en train d'oublier que je devais revenir vous parler après la chanson. Donc, je vais vous parler de deux, trois petits trucs très, très simples. Le premier, c'est du Wi-Fi qu'il y a sur les autobus d'Orléans Express maintenant, sur le corridor Montréal-Québec. Donc, j'ai eu ce qu'on appelle des vouchers, c'est-à-dire des passes gratos pour essayer le service. On me proposait deux passes et étant donné qu'on est une famille de trois, j'en ai demandé une troisième et on me l'a gentiment donné. C'est vraiment super fin. On avait, je me rappelle plus, 6 mois pour l'utiliser. Puis, le 6 mois, à un moment donné, est arrivé. Je me suis rendu compte quelques semaines avant que ça soit échu qu'il fallait que je l'utilise. Donc, on est allé à Québec vraiment à la limite fin septembre. Un super beau week-end en plus. On a fait l'aller-retour. On a resté à l'hôtel Delta. C'était le début des week-ends des couleurs. Donc, évidemment, les hôtels à Québec étaient pleins à craquer. C'était un peu difficile de se trouver quelque chose intéressant et relativement abordable. L'avantage de l'hôtel Delta, c'est que, bon, c'est près du Parlement, c'est près de l'action. En même temps, il y a une piscine extérieure chauffée. Donc, même si c'était un petit peu frais à l'extérieur, on était super bien pour la piscine. C'était vraiment génial, là. Donc voilà, puis comment était le Wi-Fi? Ben pas si mal, je dois dire. Ça ressemble un peu à, bon, quand on utilise le tethering ou, le hotspot Wi-Fi sur son iPhone. C'est assez similaire à ça. Et en l'essayant, ben en fait, on était un peu chanceux. On s'en va pour prendre l'autobus. Le premier autobus était plein à craquer. Donc, finalement, il y avait une personne, puis nous trois, qui étaient restés sur le trottoir. Fait qu'ils ont dit, ben, il n'y a pas de problème, on amène une autre autobus, puis vous partez. Fait qu'ils amènent une autre autobus, puis finalement, ben, on a eu l'autobus pour nous tout seul. Et l'autre personne, mais évidemment, n'avait pas d'ordinateur ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'avais apporté l'ordinateur, l'iPad, iPhone, iPod Touch, tout le kit pour essayer ça. Et puis, ben, j'ai essayé tout.tv pendant que mon fils essayait un autre truc, puis tout ça. Puis, l'affaire, c'est que tout.tv avait des ratés, ça skippait tout ça. Puis, c'est con, hein, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas le Wi-Fi, c'était tout.tv. L'application avait un bug à ce moment-là, avait plusieurs bugs même. Parfois, on faisait jouer, puis on entendait le son, on ne voyait plus l'image, il n'y avait plus rien qui se passait. Donc, c'est ça. Donc, c'est quand même pas si mal. En revenant, je dois dire que l'autobus était plein. Il y avait plusieurs personnes qui utilisaient le Wi-Fi. C'était pas si rapide que ça, mais c'était quand même pas mal. Moi, j'en ai profité pour travailler, pour vider un peu mes boîtes de courriel, faire le ménage un peu. Puis ça se passait quand même super bien là, tout le long. C'est sûr qu'il y a des petits bouts où est-ce qu'il y a une baisse de régime, mais en général, je dois dire, j'ai été impressionné parce que j'avais essayé la même chose avec Via il y a quoi, un an et demi. On m'avait donné des billets gratos pour aller à Toronto. À PodCamp, puis c'était fou, ça bloquait tout le temps. Faut dire que ici au Québec, sur le long de l'autoroute, il y a des tours de transmission de données cellulaires tout le long ou presque. Donc c'est sûr, c'est stable, c'est assez stable. Donc c'est bon, je vous le conseille. Si vous avez à prendre l'autobus, c'est vraiment pratique, on peut travailler tout le temps. Oui, suite à mon épisode l'autre fois, je pense que c'est le lendemain, on lançait le iPhone 4. Et là, quoi, deux jours après, Steve Jobs décède. Bon, il y a des méchantes langues qui ont dit qu'il était tellement déçu qu'il n'y ait pas un iPhone 5 qui soit sorti, qu'il en est mort. Bon, c'était un peu con là, comme histoire, mais c'était quand même rigolo, je dois dire. L'iPhone 4, les gens n'étaient pas surpris. Je pense que tout le monde s'attendait à une nouvelle coque, un nouvel appareil physique, au niveau physique. Mais avec tout ce qu'il y a quand même à l'intérieur, je dois dire que c'est une bonne mise à jour d'appareil. Bon, l'appareil photo, on a ajouté 3 mégapixels de plus, donc la qualité de l'appareil photo s'en vient quand même assez bonne. Bon, ça ne changera jamais le fait que la lentille est grosse, est plus petite qu'un petit pois, mais en réalité, bon, la qualité est quand même là. Le processeur à l'intérieur a été mis à jour, mais de façon spectaculaire aussi. Donc, tout s'améliore beaucoup, tout s'est beaucoup amélioré dans l'appareil et... Bon, il y a un truc qui fait en sorte que l'appareil est spectaculaire, c'est Siri, le système de reconnaissance vocale. Au début, les gens disaient « Ah, oh, c'est un gadget, ça ne marche pas tant que ça. » Puis, ils voyaient les démos, puis bof, ils n'étaient pas si intéressés que ça. Mais quand on voit les démos sur YouTube que les gens font et la capacité de la reconnaissance vocale, c'est quand même assez phénoménal. Il y a même un Québécois qui, la journée de la sortie de l'iPhone, le soir, a fait un test. Le lendemain, ça circulait beaucoup sur YouTube, sur Facebook. Et puis, c'est impressionnant parce que même avec l'accent, le système reconnaît quand même très bien. Faut dire que quand on pose des questions, on peut demander où est le restaurant italien le plus proche, si on aura besoin d'un parapluie demain pour telle ou telle ville. Donc, il y a il y a une reconnaissance vocale, il y a un décodage de l'information. Après ça, les serveurs font une requête. On fait une requête au serveur, en fait. Et là, l'appareil nous répond selon un langage préétabli. Donc, il y a tout ça qui fait que ça fonctionne quand même assez bien. Ça demande beaucoup, beaucoup de technologie en arrière de ça. Le problème, c'est qu'à l'extérieur des États-Unis, les services sont encore un peu limités. Mais j'imagine que ça va s'améliorer avec le temps. Puis c'est assez impressionnant. Faut dire que, c'est pas Apple qui a inventé ça une fois de plus. Apple, malgré qu'on dise « Ah, Steve Jobs, c'est un visionnaire, tout ça », faut être réaliste, là. Apple rachète des compagnies ou achète sous licence des compagnies. Entre autres, l'engin de reconnaissance vocale qui est là-dedans appartient à une autre compagnie. Entre autres, c'est la compagnie qui fait aussi l'application iPhone Dragon Dictation. Donc, cette compagnie-là est spécialisée là-dedans. Et les serveurs pour le système Siri ne sont pas chez Apple, sont chez cette compagnie-là de toute façon. Donc voilà pour ça, c'est quand même un assez bon produit. Et puis, ils ont ajouté ce qu'on appelle des Easter eggs, c'est-à-dire des petits trucs drôles, des petites requêtes comiques que si on fait, il y a quand même une réponse comme en anglais, on peut demander où cacher un cadavre. Puis le système nous répond, il y a par exemple un terrain vacant à tel endroit, il y a un parc à tel autre endroit, puis il y a une décharge à ordures à tel autre endroit. C'est sûr, c'est une blague. Mais c'est quand même drôle, il y en a tout plein comme ça, puis vous en avez sûrement entendu parler sur le web. Je vous fais jouer une autre chanson avant de terminer cette émission-là avec quelques autres sujets. C'est une fille que j'ai découvert par hasard qui s'appelle Suzy Sue et sa chanson s'appelle I Do. C'est pas vilain, mais un petit peu intense dans le style. J'haïs pas ça. Donc, quelques petits sujets rapides comme ça. On va parler des livres électroniques. Évidemment, le décès de Steve Jobs est arrivé. Sa bio, deux semaines après. Tout le monde se l'arrache, évidemment. Mais censé, je peux aller voir, censé être sorti en format papier ici au Québec, en français. Je voulais l'avoir en français à l'origine. Pourquoi? Je pense que c'est tout simplement parce que, ben, c'est sûr, même si je suis presque bilingue, c'est plus facile à lire en français pour moi. Et je pense pas qu'il y ait des choses si spectaculaires que j'ai absolument besoin de lire en anglais, contrairement par exemple à des livres de grands auteurs ou de la poésie ou des trucs comme ça. Donc voilà. Tout d'abord, il était présent le livre en anglais sur le Kindle, mais pas sur le Apple Store. Un peu surprenant le jour de la sortie parce que ben, c'est la bio du fondateur d'Apple, la seule qui a autorisé. Il est présent maintenant sur l'Apple Store, évidemment, en format livre électronique, mais pas en français. On peut l'avoir en finlandais, en grec, en italien. à peu près toutes les langues possibles, sauf en français. Ce qui est quand même un peu aberrant, un peu ridicule. J'ai cherché ailleurs, donc il n'est pas disponible sur les revendeurs qui sont associés à l'application La Hutte au Québec pour les livres électroniques. Donc, est-ce qu'il est disponible en français au Québec en version électronique? J'en doute. Si un auditeur qui l'a trouvé, s'il vous plaît, envoyez-moi un message, sylvaingrandmaison@gmail.com. Sinon, ben, j'ai fait la recherche sur Fnac, qui est bon, une librairie française, pour ceux qui connaissent. L'avantage, c'est que même si c'est français, contrairement à la plupart des services européens, on peut acheter avec sa carte de crédit nord-américaine sur Fnac, ce qui est génial pour acheter des livres en français parce qu'on s'entend qu'il y en a pas mal plus là qu'il y en a sur les commerçants, sur les sites des commerçants québécois. Donc, c'est la meilleure application pour accéder à des livres en français, mais la navigation est un petit peu plate. Le livre est disponible. On va voir là. C'est le bon livre par le bon auteur, sauf que on ne sait pas s'il est en quelle langue, il est en français, il est en anglais, on le sait pas, on nous le dit pas. Puis, il est au même prix qu'en Amérique du Nord, sauf que c'est en euros, donc à peu près 30% plus cher. S'il était le même prix, je prendrais une chance, je l'achèterais de toute façon, mais là, bof. Je vais attendre, je vais voir. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut me dire si on peut l'avoir en français quelque part en livre électronique, dites-le moi, s'il vous plaît.
It was 20 years ago today!
Oui, je me suis trompé de bouton, mais quand même, vous avez entendu Paul McCartney qui chante Sgt. Pepper's sans la musique. J'ai trouvé ça, oui, quelque part, comme ça, sur le web. On trouve plein de choses. Je voulais vous parler un peu de la stratégie de Yahoo. Yahoo qui a été longtemps, bon, un des leaders des engins de recherche. Pendant un bout de temps, c'était le leader incontesté avant avant que Google devienne le grand dominateur de ce type de choses-là. Yahoo est en perte de vitesse tout le temps. Yahoo était fort à l'époque parce que c'était un portail d'information en plus d'un moteur de recherche. Donc, on allait là pour lire des nouvelles. On dirait qu'ils n'ont pas compris c'est quoi le principe de l'interaction. Ils sont en perte de vitesse à la place de trouver des façons d'amener plus de gens. Ils rachètent des compagnies qui produisent du contenu, puis aussi ils engagent des gens pour produire encore plus de contenu. Donc, leur solution, c'est de devenir plus gros, d'engager des dépenses, de produire plus, mais pas d'optimiser le contenu qu'ils ont déjà. Je comprends pas. Surtout à l'ère de l'interactivité où est-ce qu'on partage en une fraction de seconde 10 000 informations sur le web. On devrait prendre exemple justement de sites de nouvelles. On peut dire ce qu'on voudra de la presse, mais d'ouvrir la plupart des textes puis de pouvoir les partager, bien, ça leur amène du monde, veut pas. Donc, c'est un peu ça qu'ils devraient faire, Yahoo. Oui, on peut partager sur Facebook ce qui vient de Yahoo, mais ce qui est ridicule, c'est qu'ils ont une application Facebook pour pouvoir le partager. Donc, il faut autoriser l'application pour que Yahoo ait accès à nos données. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. S'ils pensent que ça va, premièrement, ça ne ramènera pas plus de gens sur leur site nécessairement. S'ils l'avaient de façon ouverte, peut-être que oui. Ils n'ont pas compris nécessairement comment ça marchait. Donc, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est un petit peu drôle comme façon de procéder. Je mentionnais la presse. La presse a une nouvelle grille. Ben, en version imprimée, un peu sur le web aussi, mais moi, j'ai dit que c'est une version maquillée parce qu'en réalité, la structure n'a pas changé tant que ça. C'est à peine s'il y a deux, trois trucs qui ont changé de place un peu. C'est surtout l'apparence, la fonte, la typographie de la presse a l'air imbriquée. Donc, oui, on a l'air de faire évoluer un petit peu. C'est qui est quand même pas si mal, mais en réalité, il aurait pu, en passant, améliorer pas juste cosmétiquement, mais aussi la fonctionnalité. Ce que je comprends pas encore, c'est qu'ils ont annoncé il y a, je me rappelle plus combien de temps, un plan iPad. Tout le monde va être sur le iPad. On veut éliminer le papier d'ici 5 ans. Puis, en même temps qu'ils ont ce discours-là, de l'autre côté, ils ont mis à jour leur application qui était iPhone, iPod Touch et iPad. Puis en faisant la mise à jour, la version iPad est disparue. Elle est comme plus sur le App Store. Et la version iPhone est remplacée par la nouvelle qui est, bon, esthétiquement un tout petit peu mieux. Mais au niveau fonctionnalité, ils en ont enlevé. On ne peut plus télécharger pour pouvoir lire les articles en mode offline. Sans accès Internet, ce qui était très pratique pour les gens qui utilisent le métro, par exemple, ou qui, on s'en va en vacances ou on s'en va passer la journée dans un endroit où est-ce que, bon, il n'y a pas nécessairement d'accès, il n'y a pas de Wi-Fi, tout ça. Mais c'est ça, on n'a plus cet accès-là. Donc, il y a des questions à se poser. Je remets aussi en question, la grille puis les raisons qui ont poussé la presse à changer son logo. Auparavant, il y avait une genre de pastille un peu ovale avec les coins arrondis avec la presse. Puis ils se sont dit, ça fait quoi, combien d'années? Je dirais 7-8 ans à peu près qu'ils avaient changé la grille puis mis la nouvelle typo. Lui, ils ont décidé que maintenant, le facteur de reconnaissance de la presse passe par la typographie. La forme du logo qui est là depuis, je ne me rappelle plus combien d'années, genre 50, 70 ans, ça, c'est pas important. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement jeter le bébé avec l'eau du bain quand on parle de design et de branding. Je pense que c'est un peu une erreur. Là, on se retrouve avec un gros carré rouge en haut à gauche. Ça ressemble de plus en plus au Journal de Montréal. Plutôt que changer les problèmes esthétiques de la presse ou s'attaquer au côté esthétique de la presse, il devrait peut-être s'attaquer aux problèmes fonctionnels, c'est-à-dire que le journal papier, il a toujours été trop gros, toujours trop encombrant. Faudrait le ramener à un format qui est plus consultable, premièrement. Et deuxièmement, version iPad, s'il vous plaît, je serais même prêt à payer pour avoir une version complète sur iPad. Et on serait probablement plusieurs à vouloir faire ça, mais vous ne le faites pas, malheureusement. Donc, vous perdez de la business, et cette business-là que vous perdez, vous ne pourrez jamais la retrouver, mes chers amis. C'est l'heure d'arrêter. Il est tard. Puis en plus de ça, ça fait quoi? Une heure que je parle? Grosso modo, je ne sais pas trop. Ça fait déjà trop longtemps. Mais je suis content de vous avoir parlé. Je suis content d'avoir produit une deuxième émission en autant de mois. Et si vous avez des commentaires, vous le faites sur le site que j'espère pouvoir changer. Je dis toujours ça, il est de plus en plus daté. C'était un site temporaire. Et il n'y a rien de plus permanent que du temporaire, comme dirait un de mes anciens patrons en design. Donc, si vous avez des commentaires, le site par courriel aussi, sylvaingrandmaison@commercial.gmail.com. Et puis, on se reparlera, j'espère, assez bientôt. Je vous laisse avec une chanson. C'est de Scala et Colacny Brothers. Si ma mémoire est bonne, c'est pas ça qui jouait dans le film sur Facebook. Me semble que oui. En tout cas, bref, je vous fais jouer ça. J'adore ce qu'ils font. C'est magnifique, c'est simple. Ce n'est que de la voix, mais c'est très touchant. La chanson s'appelle « The Blower's Daughter ». On se reparle très bientôt. Ciao!
And so it is. And so it is.
Till I find somebody new.